France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Comment condamner pour meurtre sans preuve et sans aveu? Vendredi dernier, Cédric Jubilard a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine, alors que le corps de celle-ci n'a jamais été retrouvé. L'affaire fait suite à plusieurs procès ayant eu lieu dans des circonstances proches. Alors sur cette affaire et au-delà même, de quelles preuves la Cour peut-elle s'emparer pour motiver sa décision? Quel rôle a joué l'intime conviction des magistrats et des jurés? Trois invités ce soir pour nous éclairer. Laure Hennick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et écrivaine. À vos côtés, Fanny Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris. Face à vous, Denis Salas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice, une association fondée par Robert Badinter. Vous êtes par ailleurs essayiste. Merci à tous les trois d'être présents ce soir en question du soir.
Ça fait maintenant 5 ans que je m'égosille, que je crie, que je hurle que ce dossier n'est pas vide, que dans ce dossier il y a des preuves, que dans ce dossier il y a une scène de crime. Et ça fait 5 ans que l'on m'oppose que ce dossier est vide et que Cédric Jubilard est innocent. Aujourd'hui, la vérité judiciaire est tombée. Cédric Jubilard est coupable d'avoir tué Delphine Auzaguel dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Maintenant, le sentiment de mes clients, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que la vérité a pris le pas sur le mensonge, c'est une bonne chose. Mais qui peut se satisfaire qu'un homme passe les 3 prochaines décennies de sa vie en détention? Qui peut se satisfaire pour ses enfants d'avoir une mère enterrée dans une forêt, dans une crevasse ou je ne sais où, et d'avoir un père en détention? Personne ne se satisfait de ça. C'est pas une satisfaction.
La voix dans l'émission C'est à vous sur France 5 de Maître Mourad Batik, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard. Et commençons, Fanny Collin, par le tout début. Peut-on inculper pour meurtre si l'on ne retrouve pas de corps? Et dans le fond, peut-on être certain même qu'il y a eu un meurtre si l'on ne retrouve pas de corps?
Alors, c'est possible, naturellement, et de nombreux précédents judiciaires, pas que l'affaire Jubilard le démontre. Et donc, la première question qui se pose lorsque, effectivement, on a la disparition d'une personne, mais pas son corps, c'est d'établir la preuve du décès. C'est-à-dire qu'avant même de rechercher qui pourrait être l'auteur d'un crime, encore faut-il que crime il y ait eu. Et donc, la preuve doit être apportée, évidemment par l'accusation, hein, puisque ce n'est pas à celui qui est accusé de démontrer son innocence, mais bien à l'accusation de rapporter la preuve d'une culpabilité et avant cela, la preuve du crime. Et donc, c'est tout le débat du soir, c'est à partir de quel stade de preuve on peut établir l'existence d'un décès. Donc ici, en présence de la disparition d'une personne, vous avez des indices qui ne sont pas encore des preuves et qui méritent d'être investigués, qui vont être cumulés pour que se forge, et c'est un mot également que vous avez employé, une intime conviction de ce que le décès est acquis. Donc par exemple, pour prendre le cas de Delphine Jubilard, la circonstance que voilà une jeune femme qui aurait disparu en laissant 2 petits-enfants, en laissant son amant, sans argent, ne donnant aucun signe de vie pendant un temps donné aux membres de sa famille et à ses amis. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces éléments mis bout à bout permettent d'acquérir la conviction qu'elle n'est pas simplement disparue, mais qu'elle est décédée? Et
cela, ça suffit, Laure Hennick, à être certain, à apporter la preuve que cette femme est bel et bien décédée? Dans le fond, on pourrait se dire, elle a peut-être souhaité changer de vie, laisser sa vie d'aujourd'hui en l'état et commencer, j'allais dire, quelque chose de nouveau ailleurs, très loin, coupée de tout.
Mais les preuves sont libres, en fait. Les preuves sont libres, laissées à l'appréciation du magistrat, c'est ça qu'on appelle l'intime conviction. Et donc, les preuves, ça peut être ce que vient de nous dire Fanny Collin. Ensuite, sur la culpabilité, vous pouvez avoir des écoutes judiciaires, vous pouvez avoir des témoignages, vous pouvez avoir de l'ADN, bien sûr, vous pouvez avoir vraiment Ce que vous voulez, en droit pénal, il y a une liberté, il n'y a pas de prohibition. Donc,
mais sur la preuve du décès, comment prouver ce décès ?
Mais c'est là aussi l'intime conviction. Et puis ça reste ensuite une vérité qui est une vérité partielle. Je veux dire, même si on doit ne pas avoir de doute, ça reste une vérité judiciaire. Donc la première étape, c'est de savoir effectivement si on est convaincu par le fait qu'elle est décédée. Il y avait un confrère qui s'appelait Jean-Yves Liénard qui est mort aujourd'hui et qui, pour définir l'intime conviction, demandait au juré de se poser la question avant d'y répondre si ma vie en dépendait. Est-ce que si ma vie en dépendait, je dirais que Delphine Jubilard est morte ? Est-ce que si ma vie en dépendait, je dirais que... Et donc, évidemment, ça demande une exigence particulière. Et c'est ça, l'intime conviction. Hein. C'est la façon dont les preuves résonnent sur vous. Mais tant qu'on veut que la justice soit humaine, eh bien sûr, il y a aussi une part d'ombre, une part d'erreur et juste une vérité qui est judiciaire.
Comment est-ce que vous abordez cette question, Denis Salas, apporter la preuve d'un décès sans que l'on n'ait jamais retrouvé le corps à ce stade ?
Il y a beaucoup de situations où on a les corps et ce qui n'empêche pas d'introduire un doute, une discussion sur la nature des actes qui ont été commis sur ce corps. Je me souviens d'une affaire où on invoquait un meurtre et la défense disait c'est une chute dans les escaliers. Il a fallu investiguer les plaies, les cicatrices, une dispute de légiste autour de ces questions-là. Enfin, je veux dire, vous avez un corps, mais vous avez un doute sur l'origine des blessures qui sont commises sur ce corps.
Oui, mais cela, pardonnez-moi, ce n'est pas un doute sur le décès lui-même, c'est un doute sur le meurtre.
C'est un doute sur le meurtre. Avec un corps qui n'empêche pas une interprétation sur l'origine des faits commis. Ce que disait Lorénic est très juste, c'est-à-dire qu'on peut effectivement déduire de l'existence d'un ensemble de faits l'existence d'un meurtre qui a été commis, même si on n'a pas le comment, hein, on a le pourquoi, ce qu'a dit l'avocat général d'ailleurs dans cette affaire-là, on sait pourquoi ça a été commis, on a un élément intentionnel, et à partir de cet élément intentionnel, on tire la pelote, et on accumule, alors c'est important ça, on accumule toute une série de faits, qu'on appelle des faisceaux d'indices, qui vont converger pour démontrer effectivement qu'il y a eu meurtre. On compare souvent, je trouve cette comparaison est intéressante, le juge et l'historien. L'historien, comme le juge, comble l'absence dans un paysage donné des manques qui peuvent exister par une réflexion, des projections, une imagination ou des arguments complémentaires. Eh bien, il y a des indices. On va rechercher ces indices et le cumul de ces indices peut produire une preuve après un débat contradictoire.
Vous avez levé les yeux au ciel, Fanny Collin, je vous trahis. Alors, pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que je suis toujours un peu choquée d'entendre dire qu'on peut, en matière judiciaire et avec les enjeux qui sont attachés à cette matière-là, c'est-à-dire des peines de prison, de privation de liberté, qu'il conviendrait de combler les manques. Si manque il y a, le manque doit être constaté, il doit en être tiré toutes les conséquences. Et donc précisément, l'œuvre de justice n'est pas de combler les blancs, les absences ou les manques par cette formule qui est somme toute assez sibylline du faisceau d'indices pour pallier l'absence de preuves. Encore une fois, on est dans une recherche de vérité judiciaire qui n'est pas la vérité avec un grand V, qui est une vérité qui se forge à partir d'éléments qui doivent être objectifs et pas simplement de raisonnement. Et puisqu'on parle de manque, et sans vouloir aborder dans le fond l'affaire Jubilard à laquelle personne autour de cette table n'a participé, il faut prendre garde aussi que le manque ne conduise pas à une condamnation, et ici le manque d'un auteur. C'est-à-dire que le risque, en l'absence de corps et de scènes de crime, et même de certitude du décès, c'est qu'on se dise que puisqu'il n'y aurait pas d'autre explication à la disparition de cette femme, Delphine Jubilard, eh bien, nécessairement, par un raisonnement qui partirait d'un mobile supposé, on considérerait que si c'est pas Cédric Jubilard, c'est personne, donc c'est bien lui.
Daniel Nussala, ça fait la distinction qui a été faite également durant ce procès Jubilard, distinction entre le comment d'un côté et le pourquoi, puisque pour convaincre la cour et les jurés du Tarn de déclarer Cédric Jubilard coupable du meurtre de son épouse Delphine, l'accusation a une faiblesse, a-t-il été dit, elle ne peut répondre au comment celle-ci a été tuée, mais elle a une force, elle peut expliquer le pourquoi, Lorénic, au-delà de l'affaire Jubilar, c'est dans ce type d'affaire, lorsque l'on ne retrouve pas le corps, cette question-là du pourquoi qui prévaut sur celle du comment ?
Je ne sais pas si elle prévaut. Il y a des affaires où il y a le comment, il y a des affaires où il y a le pourquoi. Et c'est vrai que, Denis Salas vous disait tout à l'heure, il y a des affaires où on a le corps et où on ne sait pas. Moi, je me souviens d'une affaire où on se disait aussi bien c'est une intoxication médicamenteuse et on n'a pas la preuve de l'administration de médicaments. Mais ça n'empêche souvent pas que les affaires soient déférées devant une cour d'assises et que les jurés se penchent sur le sujet. Donc, bien sûr, il faut faire très attention aux erreurs judiciaires. On a un dicton, on n'est pas tous d'accord de quel côté il faut le dire, mais a priori, les avocats, on est tous d'accord que mieux vaut un coupable qui soit en liberté qu'un innocent qui soit emprisonné. Et c'est pour ça que la loi nous dit que le doute doit profiter à l'accusé. Donc, bien sûr, il y a une exigence très forte, que ce soit pour le pourquoi ou le comment. Mais si un pourquoi est très irrévocable, il se substitue au comment.
Ce qui est intéressant aussi dans ce procès, Denis Salas, c'est qu'en l'absence de corps, se pose une autre question, bien plus large, plus philosophique. Qu'est-ce qu'une preuve, dans le fond ? Comment est-ce qu'on définit ce qu'est véritablement une preuve ? Et qu'est-ce que la procédure judiciaire permet, justement, de définir quant à cette notion ?
Ça, je pense que l'opinion publique mesure mal le degré, d'intensité que doit avoir une preuve en matière judiciaire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, moi j'aime beaucoup la formule anglo-saxonne, il faut avoir effectivement une preuve au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un ou déclarer coupable quelqu'un si vous reste un doute, quel qu'il soit, raisonnablement apprécié. Et je trouve que cette exigence majeure de preuve fait la différence entre ce qu'il y a auparavant, à savoir des indices graves, concordants, et puis le moment du procès où là, vous ne pouvez pas condamner sans ces preuves-là. Alors, quand la preuve... Alors, pendant très longtemps, l'aveu était la reine des preuves. En tout cas, c'est ce qu'on affirmait sous des formes plus anciennes de justice.
Pas d'aveu non plus, dans le procès Jubilar, on le disait.
Pas d'aveu non plus. Mais en même temps, bon, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais et en même temps, en l'absence de cet aveu, il va falloir effectivement rechercher l'ensemble des éléments qui peuvent, ce qu'on appelle les éléments intentionnels notamment, qui peuvent nous conduire effectivement à penser que cet acte a été commis. Et c'est ce travail de fourmi qu'a fait l'enquête pendant très longtemps, avant le procès, qu'ont fait les juges d'instruction. Moi j'ai lu dans la presse comme vous tout ce qui était dit, les cris, les disputes, le mobile, etc., etc.
Les lunettes brisées, au sol.
Les cris de l'enfant, etc., etc. Enfin, tout un ensemble de choses qui sont assez accablantes, qui ont été réunies pour, effectivement, réunir... J'ajoute un mot, quand même, sur l'aveu. Parce que je trouve que l'aveu, Michel Foucault nous a habitués à penser l'aveu comme une sorte de capitulation, disait Foucault, vis-à-vis de l'accusation. Et je trouve que dans le procès Jubilar, on a beaucoup reproché à Jubilar, notamment, l'absence d'aveu qui ne permettrait pas aux victimes, notamment aux enfants, de faire le deuil de leur père. Donc l'aveu change de sens aujourd'hui. C'est un aveu qui est destiné à la victime, qui n'est pas tellement destiné à l'accusation. Et j'ai été frappé d'une déclaration qui paraît adjacente d'une des parties civiles qui a dit « Ah, encore un procès en appel. L'enfant ne pourra pas faire le deuil de son père pendant encore X années. » Là, vous avez le sens de l'aveu qui change à cause de la présence de la partie civile, à mon avis.
Fanny Collin, sur la distinction entre indice et preuve, on répète ce qu'on a lu également dans la presse concernant le procès Jubilar, des cris, des lunettes brisées retrouvées au sol, sans vous demander de commenter, ces deux faits-là. Qu'est-ce qui permet à un juré, à des magistrats, de distinguer l'indice de la preuve ?
Pour le dire simplement, on pourrait dire qu'un indice est un soupçon. C'est un soupçon qui mérite d'être confirmé par encore d'autres éléments. Et effectivement, il y a ensuite un cumul de soupçons, d'éléments qui sont apportés, et c'est aux juges et aux jurés, dans leur conscience et dans le silence de leur réflexion, de mettre en rapport tous les éléments les uns aux autres, d'évaluer la crédibilité de ceux-ci, sans qu'aucune hiérarchie ne soit imposée dans l'épreuve. Parce qu'effectivement, comme Laura Nisch l'a dit, d'abord la preuve en matière pénale est libre, et qu'ensuite, selon les affaires qui nous occupent, chaque indice qui peut devenir une preuve doit être évalué par rapport aux moyens de la défense, parce qu'un aveu peut être extorqué, et il y a dans notre passé judiciaire malheureusement beaucoup d'exemples, même l'ADN qui est devenu, qui a substitué l'aveu comme reine des preuves, il peut y avoir des scènes contaminées, des transferts d'ADN, les témoignages, un témoin peut toujours se tromper, être influencé, notamment dans les dossiers très médiatiques où la presse, quasi en temps réel, commente l'instruction en cours.
Donc, preuve absolue, ça n'existe pas.
La preuve absolue, ça n'existe pas. Encore une fois, on est dans la recherche d'une vérité judiciaire avec la preuve qui s'y attache. Mais c'est vous dire à quel point l'œuvre de justice est une œuvre difficile, comme le devoir qui pèse sur les magistrats est complexe et délicat, parce que, encore une fois, il n'y a pas de principe. On peut condamner sans corps, on peut condamner sans aveu, on peut condamner sans ADN, mais il faut tout de même qu'une preuve soit rapportée, et c'est à chacun, enfin celui qui doit juger, eh bien de forger son intime conviction, mais encore une fois, qui n'est pas un sentiment diffus, c'est un brave type, c'est un sale type, mais qui repose sur des éléments objectifs.
On va revenir sur cette notion fondamentale hein, d'intime conviction, mais l'heure est nique avant cela. Vous souhaitiez réagir.
Oui, les Anglais, puisque Denis Salas a cité un adage anglo-saxon, mais en anglais, preuve, ça se dit, si je vous le dis sans l'accent, ça se dit évidence. Et c'est quand même pas rien, c'est-à-dire qu'on y va directement. On doit savoir que de cette preuve, ou de ces preuves rassemblées, découle une évidence, donc l'absence de doute. Mais c'est vrai que dans les affaires qui sont particulièrement soit médiatisées, soit évidemment des drames terribles, comme dans l'affaire qui fait l'objet là, de l'affaire Jubilar, mais il y a une pression qui est très forte nécessairement sur les magistrats. Et Thierry Lévy, qui était un avocat formidable, disait que paradoxalement, avec ce besoin de rendre justice et aux victimes et à la société aussi, de ne pas laisser, comme disait Fanny Collin tout à l'heure, un crime comme celui-ci qui soit impuni, eh bien, on a tendance à ce que la preuve soit plus laxe. Et que finalement, c'est l'inverse de ce qu'on peut voir, qu'on peut peut-être plus facilement aller relaxer quelqu'un qui aurait volé des chaussettes à un supermarché parce que on a un doute. On pourrait plus facilement le relaxer que celui qui est accusé de quelque chose d'extrêmement grave et qui a sa vie qui est en jeu.
Comment est-ce que vous abordez, Fanny Collin, je vous interrogerai tous les trois sur ce sujet, la question des aveux. On a longtemps dit les aveux sont la preuve ultime, la preuve reine. On disait cela avant que la recherche scientifique en matière d'ADN puisse justement permettre d'entrer dans le détail des empreintes digitales, etc. Cette question des aveux aujourd'hui, comment elle se pose dans un procès ?
Alors, on disait que l'aveu était la reine des preuves jusqu'au moment où plusieurs affaires judiciaires ont démontré que des aveux avaient pu être faits dans plusieurs dossiers.
Et que ça restait fragile.
Et surtout que c'était des faux aveux. Donc, soit qu'ils aient été extorqués, soit que pour telle ou telle raison, eh bien, sous une forme de pression ou pour tout autre motif, des personnes se sont accusées alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est vrai dans le cas de l'affaire Outreau, c'est vrai dans le cas de l'affaire Patrick Deals, et c'est vrai dans beaucoup d'affaires. Alors effectivement, on essaye de garantir en faisant évoluer la législation la manière dont les aveux sont recueillis, et notamment en autorisant bientôt plus de 10 ans la présence des avocats lors des gardes à vue, parce que évidemment avant la présence des avocats, vous mettiez une personne, vous la priviez de liberté pendant des heures et des heures et des heures, et qu'elle était interrogée, et à un moment les gens peuvent craquer et raconter n'importe quoi. Voilà, donc comment on traite l'aveu on le traite toujours avec précaution. Il faut s'assurer, même quand il y a des aveux, que les aveux sont réels. Et donc, on demande à la personne qui s'accuse de donner des détails qu'on va ensuite aller vérifier pour s'assurer que ces aveux valent bien preuve.
Lorénic, même précaution avec les aveux, c'est fondamental dans chaque procès ?
Alors, c'est quand même exceptionnel qu'il y ait eu des aveux et que finalement ces aveux n'étaient pas véridiques. Donc, je suis pas tout à fait sûre que les juges prennent toujours les précautions de vérifier les aveux. Moi, je trouve que il y a une quête à l'aveu qui est terrible. C'est-à-dire qu'on demande aux accusés d'aller avouer, soit pour les victimes. Et je peux très bien le comprendre qu'en fait, le procès ne ressemble pas à la même chose si quelqu'un a avoué et si quelqu'un n'a pas avoué, et que c'est une façon de donner quelque chose quand vous donnez
aux victimes.
De donner aux victimes, oui. Et potentiellement de donner à la société. Et moi, je pense qu'on devrait d'ailleurs condamner bien moins fort les gens qui avouent par rapport aux autres. Alors après, ça poserait le problème aussi d'aller prendre le risque, d'aller avouer quelque chose qu'on n'a pas fait dans une forme de plaidé coupable en se disant je vais écoper d'une peine qui serait moins importante. Voilà, je pense que ça déresponsabilise vraiment le magistrat dans la fonction de juger, que c'est pour ça. Alors bon, c'est pas
les aveux déresponsabilisent les magistrats.
Mais oui,
parce que le risque d'erreur est moins fort.
Voilà, vous avez la force du déni quand même. Quelqu'un qui vient vous dire je l'ai pas commis, c'est quand même compliqué d'aller contre une négation. Il y a une responsabilité que vous prenez dans l'office du juge, dans l'office de le fait de condamner. Et quand quelqu'un avoue sa responsabilité, et ben là il y a aussi quelque chose qui se lâche ou qui se relâche dans la peine que vous pouvez donner. Donc je n'explique pas autrement le fait qu'on recherche que le magistrat en premier lieu et dès la garde à vue, donc la garde à vue sont les policiers, et ensuite à l'instruction, recherche des aveux, ça facilite vraiment le travail.
Une grande hésitation s'est dessinée sur le visage du magistrat, Denis Salas.
Oui, peut-être que dans certains cas, on peut considérer que l'aveu soulage, je dirais, le magistrat qui est en quête de vérité, mais c'est de moins en moins le cas. D'abord, il ne faut pas oublier que la personne qui est dans le box, c'est un procès public. La publicité est là. Il a sa famille, son entourage. Le public est là, les journalistes sont là. Et entrer dans une démarche de reconnaissance des faits, c'est prendre un risque, je dirais, réputationnel, un risque dans son image, qui est considérable. Donc, le magistrat peut parfaitement respecter son silence. D'ailleurs, un droit au silence est garanti par les droits fondamentaux.
J'ai du mal, pardonnez-moi, à comprendre cet argument, Denis Salas. On imagine bien que quelqu'un qui se décide à avouer ne prend pas la décision dans le box face à sa famille, mais qu'il y a une réflexion de plusieurs semaines menée collectivement, notamment avec son avocat.
Ah oui, mais l'avocat peut très bien aussi considérer qu'il a droit au silence, qu'il est présumé innocent et qu'il a absolument pas intérêt à avouer, sauf si...
Mais ça se paye, le droit au silence.
Oui,
les magistrats vous disent c'est un droit, les audiences commencent comme ça, il y a l'avertissement, monsieur, vous avez le droit de garder le silence.
Je suis tout à fait d'accord.
Ça reste au niveau de l'avertissement, le droit au silence, puisque ça devient une preuve de culpabilité lorsque l'on garde le silence.
Denis Salas, je vous en prie.
Je suis content que vous le disiez, parce que très souvent, ce droit au silence est revendiqué par les avocats, mais vous le relativisez. Très bien. Mais je trouve simplement que dans ce cas-là, effectivement, le magistrat doit comprendre que reconnaître en totalité, dans le cas qui nous occupe, des faits comme le meurtre de son épouse, c'est quand même une démarche qui ne va pas jaillir spontanément de la personne considérée. Et que si un travail n'a pas été fait avec son avocat, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, au contraire, préalablement, il ne va pas brusquement, par une pression de l'opinion, du juge ou des questions qui lui sont posées, reconnaître ça. Par contre, ce qui me semble peut-être travaillé par l'avocat, mais ça je vous pose la question, c'est une vérité acceptable pour le juge. Qui soit pas un aveu peut-être qui soit total, mais qui soit un aveu qui soit une déclaration, une forme de reconnaissance, un récit tout simplement, un récit que la juge peut entendre et peut comprendre afin de pouvoir effectivement fonder une décision qui soit comprise par lui et par le public.
Une réaction d'un mot sur ce point, Fanny Collin, parce qu'après je voudrais parler de la notion d'intime conviction. Il faut qu'on avance.
C'est donner beaucoup de pouvoir à l'avocat que de penser qu'il pourrait livrer une version à son client qui serait acceptable et
travailler avec son client une version acceptable
pour le magistrat, mais l'avocat est aussi là parfois pour accompagner des aveux, ne serait-ce que pour que celui qui a commis un crime ou un délit puisse soulager sa propre conscience.
La voix de Maître Simon Cohen à propos de cette notion dont on parle depuis le début de cette discussion, celle d'intime conviction. On tentera ensuite, grâce à vous, d'en donner une définition.
Il s'agit d'indices, mais pas de preuves. Toute la question est de savoir à partir de combien d'indices on peut considérer que la preuve est faite. On en est là. Combien d'indices faut-il pour faire une preuve ? Personne ne le dit, parce qu'on laisse ça à l'intime conviction des jurés. Avez-vous une intime conviction qui peut, on peut définir la conviction, on peut définir l'intimité, mais qui est en mesure de délivrer une définition acceptée par tous de l'intime conviction. Qu'est-ce que c'est l'intime conviction ? C'est quelque chose de subjectif. Donc, le sort d'un homme dépend de la subjectivité de ceux qui le jugent. Ça peut poser une question philosophique.
Dans le procès Jubilard, dans beaucoup, beaucoup d'autres procès, on s'en remet à l'intime conviction de magistrats professionnels. Ils étaient trois dans ce procès Jubilard, de citoyens devenus magistrats, non pas magistrats d'ailleurs, mais oui. Disons, des amateurs, des jurés de la justice.
Comment, des magistrats d'un jour.
Des magistrats d'un jour. Comment définir cette notion, Lorénique, d'intime conviction ?
Là, on entend le confrère dire que c'est subjectif. Mais il a raison, c'est subjectif, en fait, l'intime conviction. Et c'est justement le recueillement de chacun. Et c'est pour ça que... Alors moi, quand j'ai commencé les cours d'assises...
Mais c'est pas un simple avis.
Non, justement, c'est pas un simple avis. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant de répondre à la question. On se dit, si ma vie en dépendait. Donc c'est certainement pas un simple avis. On prête un serment, il y a tout un cérémonial. On y passe du temps. Il y a un débat contradictoire entre celui qui accuse et puis celui qui défend. Et puis, il y a eu... Alors, c'est l'article 353, là, je crois qu'autour de la table, tout le monde l'a, parce que c'est vraiment le plus bel article du code, et qui demande aux jurés de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Et donc, c'est le plus bel article. Il y en a qui militent pour que cet article soit changé, pour qu'on parle plus précisément de preuves. Et a été rajoutée en 2012 une première phrase qui dit « sous réserve de l'exigence de motivation ». Donc, en fait, on ne demande pas aux jurés comment ils se sont prononcés, sous réserve de cette exigence, parce que depuis 2012, on leur demande de rédiger ce qu'on appelle une feuille de motivation et qui peut prendre plusieurs pages sur lesquelles ils disent justement, c'est cette preuve-là, c'est ces indices-là qui réunis nous ont permis, un, d'entrer en voie de condamnation et deux, de motiver la peine. Et moi, je me souviens que j'étais au Conseil constitutionnel le jour où c'est d'ailleurs Éric Dupond-Moretti, il était encore avocat, qui avait plaidé pour qu'on puisse savoir qu'on puisse motiver les peines, savoir pour quelles raisons, en fait, une cour d'assises pouvait vous avoir condamné à 8 ans ou à 10 ans. Et il expliquait que, pour une même affaire, il avait un client qui, en première instance, avait été condamné à 10 ans, qu'en cour d'appel, il avait été acquitté, qu'il y avait eu un pourvoi en cassation et qu'ensuite, il avait pris 20 ans. Et donc, il dit... À ce moment-là, je sors de la cour d'assises, les journalistes me tendent le micro et je dis 10, 0, 20, on attend le numéro complémentaire. Et sous cette boutade-là, ça montrait bien quand même que cette intime conviction, il faut le dire aussi, elle peut faire passer de 10 à 20 et à 0. C'est pour ça que moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'à partir du moment où vous avez été acquitté en première instance, il n'y ait pas de droit d'appel pour le parquet. Parce que vous pouvez passer de 0 à 20 ans. Là, c'est on entend le magistrat sur ma droite qui n'a pas l'air tout à fait d'accord.
On va le faire réagir. Mais... Avant cela, Fanny Collin, il faut peut-être préciser une chose, cette notion d'intime conviction, lorsqu'un juré en l'occurrence est face à lui-même pour prendre une décision importante qui a un impact majeur sur la vie d'autrui, il se fonde d'abord sur le dossier, sur une expertise, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, sur les preuves qui ont été glanées durant des semaines de procédure. C'est cela qui différencie, j'allais dire, l'intime conviction du pur arbitraire.
Oui, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas certaine que cette notion d'intime conviction soit si subjective que cela, parce que ce texte du code de procédure pénale dont Laurent Nisch nous a livré, et j'en ai des frissons parce que c'est effectivement un très beau texte.
Le texte est magnifique, absolument.
Voilà, magnifique, oui. Tous les mots sont importants. Ce que dit ce texte, qui est le serment des jurés, c'est que l'impression qu'il y a l'intime conviction, elle doit être faite sur la raison. Donc on n'est pas sur une question d'opinion, d'avis, de sentiments, encore une fois de sentiments diffus, et que ce qui doit être apprécié, c'est l'impact sur votre raison, et le texte dit cela, des preuves rapportées contre l'accusé et des moyens de la défense. Donc le terme de preuve, il est bien dans le texte, et il dit aussi que ce n'est pas à la défense de rapporter une preuve. Elle a des moyens de défense, c'est-à-dire pour contester les preuves telles qu'avancées contre l'accusé. Et donc, vous voyez cette confrontation qui doit avoir lieu entre une preuve à rapporter contre l'accusé, des moyens de la défense qui vont venir contester cette preuve. Et ce que ça dit en creux, c'est que donc s'il y a le moindre doute qui persiste, eh bien c'est l'acquittement ou la relaxe qu'il faut prononcer.
Lorsque les jurés, les magistrats sont réunis dans la chambre des délibérations, comment cela se passe très concrètement, monsieur le magistrat Denis Salas, pour prendre une décision collective qui se fonde sur autant d'intimes convictions ?
Il n'y a pas de règle, c'est ça qu'il faut bien comprendre.
Il n'y a pas de procédure.
Il n'y a aucune règle. Moi, j'ai fait beaucoup de débriefing à l'école de la magistrature avec des présidents de cours d'assises en formation continue. Il n'y a pas de règle et c'est l'éthique de chacun qui tend à l'emporter. On en discute beaucoup et il y a différentes pratiques. Pour répondre à votre question, moi, je dirais par exemple, vous pouvez avoir par exemple un tour de table. Tout simple, où chacun donne son point de vue en fonction de ce qu'il a perçu du procès, des arguments qui ont été échangés, etc. Dans d'autres moments, d'autres font autrement. Ils donnent la parole successivement en fonction des questions qui sont posées à tel ou tel juré. Et un tour de table thématique par question posée. Et puis, la plupart du temps, moi, ce que j'ai observé, et c'est une pratique qu'on a tendance à soutenir, c'est que le président ne doit pas donner son point de vue immédiatement. Vous voyez, il doit, pour ne pas influencer les jurés.
Car le point de vue du professionnel, naturellement,
il a un poids
plus fort que les jurés citoyens.
D'autant que le président est le seul à avoir connaissance du dossier de la procédure.
Absolument. Et puis, il peut avoir une intime conviction de culpabilité ou d'innocence, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, effectivement, le poids de l'avis du président est nécessairement plus fort, notamment sur les jurés citoyens, parce que dans la composition d'une cour d'assises, la seule personne qui ait accès à tout le dossier de la procédure et qui a pu l'étudier avant le procès, eh bien, c'est le président. Et donc, il n'est pas rare d'entendre que, dans le cadre de délibérés, qui sont absolument secrets, donc j'aimerais savoir comment ça se passe, mais évidemment, personne...
Je vous donne des éléments d'explication.
Voilà, exactement, mais c'est très intéressant. Parfois, on peut penser que le président a pris le lead, et donc, fort de sa connaissance du dossier que les autres n'ont pas, il pourrait imposer sa... J'ignore quelle est la pratique, je n'ai malheureusement jamais eu la chance d'assister à un délibéré.
L'extrait d'un film auquel on pense tous dans ce genre de situation, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, sorti en 1957.
À vous d'abord. Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire.
Ah, personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous savez que l'accusé n'est pas forcé d'ouvrir la bouche. C'est dans la Constitution.
Oh, bien sûr, oui, je sais ça. Je voulais simplement dire que... Il a tué. Il est coupable, ça ne fait pas de doute.
Très bien. Au suivant de ces messieurs.
Les trois praticiens du droit dans ce studio écoutaient cet extrait avec les larmes aux yeux pratiquement. Lorénique, peut-être un commentaire. Le doute doit toujours prévaloir dans la chambre des délibérations ?
Oui, le doute doit prévaloir, mais est-ce que j'entendais tout à l'heure que le président devait être en retrait parce que justement la force de sa robe fait que les jurés obéissent. Alors ça, il y a des études là-dessus, et en fait, les jurés obéissent. Et là où on sait que ce que vous nous dites, Denis Salas, des essais que la magistrature essaie de faire, et c'est tant mieux pour pas avoir une influence sur les jurés, on sait que c'est pas vrai, nous, parce que nous, on se renseigne...
Les jurés obéissent, pardonnez-moi, qu'est-ce que cela signifie ? Les jurés, les citoyens suivent l'avis des magistrats professionnels ?
Oui, bien sûr, mais c'est un peu normal aussi. Qu'est-ce qu'on en sait ? Parce que nous, ça fait 25 ans qu'on est avocate, et quand même, quand on va devant une cour d'assises, on n'en sait rien si la cour d'assises entre en voie de culpabilité, si ça va être 4 ans ou si ça va être 10 ans. En fait, on n'en sait rien. Donc, c'est quand même difficile d'évaluer une peine. En revanche, ce qu'on sait, c'est que monsieur Untel, il est plus sévère que madame Untel. Et quand on a les noms des présidents, on sait très bien que la peine va être plus grave en fonction du magistrat qui est désigné. Donc, il y a vraiment une influence sur la laquelle je suis d'accord avec vous, il faut lutter. Juste un mot sur le film qui effectivement nous émeut tous. Ce qui prouve ce film et se délibérer des 12 hommes en colère, c'est le temps qu'il faut prendre pour rendre justice. Et c'est qu'on peut faire machine arrière. Et c'est que si on a envie de rentrer chez soi rapidement, on peut pas faire machine arrière de la première impression qu'on a. Et en matière de justice, la première impression, en général, elle reste jusqu'au bout. Alors à la cour d'assises, vous avez 5 ans d'instruction et 3 jours d'audience, donc vous avez un peu le temps de faire machine arrière. Les gens qui sont jugés en comparution immédiate, en 25 minutes, avec un dossier qui a duré 2 jours d'enquête, il n'y a pas le temps, en fait, de faire marche arrière. Donc la justice, il faut qu'elle prenne son temps, et c'est ça que nous dit ce film.
Ce qui est frappant dans ce que vous décrivez tous les 3, je vais vous faire réagir, Denis Salah, sur ce qui se passe au sein de cette chambre des délibérations, c'est presque que la sociologie des acteurs en présence a plus de poids que l'application d'une règle de droit. Et c'est ainsi pourtant que le grand public se représente les choses, mais se les représente faussement, Denis Salas.
Oui, parce que d'ailleurs, des études, vous le dites, de dynamique de groupe au sein d'une collégialité avec des juges non professionnels et des juges professionnels. Moi, je l'ai vu concrètement. Je n'ai passé pas beaucoup d'audiences de ce type-là. Il ne faut pas avoir des projections, des projections un peu fantasmatiques sur tel ou tel président qui va avoir une sévérité particulière ou une influence particulière. C'est pas vrai. Il y a souvent des jurés qui l'ai vu souvent, qui réagissent avec leurs convictions, qui l'affirment, qui le disent et qui s'imposent naturellement par rapport à ce qu'ils ont entendu dire de tel ou tel avocat ou de tel ou tel parti. Par ailleurs, le vote est secret. On le rappelle, le vote est secret. Personne ne sait ce qu'a voté l'autre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une atteinte, une influence particulière de ce point de vue-là. Donc voilà, il faut un peu relativiser ce type de remarques. J'ajoute simplement un point quand même, parce qu'on a passé un peu vite sur l'intime conviction, je voudrais quand même le dire. L'intime conviction, et c'est la complexité du concept, c'est à la fois une part de doute et une part de décision. Et Jean Carbonnier, un juriste qui nous est cher, disait « c'est un doute qui décide ». Et ce passage du doute à la décision, cette contradiction qu'il faut surmonter, hein, il faut à la fois essayer de comprendre et en même temps vouloir décider, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever et qui fait partie de l'office du juge, si vous voulez, dans cette fonction-là. Donc voilà, c'est ce passage-là qui me semble difficile et qui doit être assumé par le juge, parce que quand la décision tombe, elle doit être motivée par la suite, hein. On l'a bien dit tout à l'heure, écrite, argumentée, comprise aussi. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait partie de son office.
Je voulais revenir aussi très rapidement, Fanny Collin, sur le fait que depuis la loi du 10 août 2011, il y a une obligation de motiver des décisions de cour d'assises. Pourquoi ce changement en 2011 et au fond, qu'est-ce que cela apporte, cette motivation?
Alors écoutez, je peux vous en parler de ce changement en 2011. Il est lié à l'affaire de Maurice Agnolet, que j'ai eu l'honneur de défendre aux côtés de François Saint-Pierre et de Jean-Pierre Versini-Campinqui, parce que Maurice Agnolet a été jugé pour meurtre sur la personne d'Agnès Leroux en 2006 devant la cour d'assises de Nice. Il a été acquitté. Le parquet général a fait appel, et je rejoins Laura Ignis sur le fait que je considère, en tout cas à titre personnel, que le parquet qui représente l'accusation et qui a tous les pouvoirs ne devrait pas avoir cette deuxième chance. Et donc 6 mois plus tard, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, en présence d'exactement les mêmes éléments, Maurice Agnolet a été condamné à la peine maximum 20 ans. Et puis ensuite, la condamnation est devenue définitive. Un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme a été déposé par la défense. Et il était critiqué l'absence de motivation, parce que voilà un homme qui est acquitté, et puis 6 mois après, condamné au maximum, sans qu'on sache les raisons pour lesquelles il a été acquitté, les raisons pour lesquelles il a été, quelques temps plus tard, condamné. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme a dit à la France, votre législation qui permet que dans les affaires les plus graves, c'est-à-dire les crimes où les enjeux sont les plus importants, vous n'ayez pas à expliquer les raisons pour lesquelles vous entrez en votre condamnation ou non, est inacceptable, et donc changez votre loi. Et c'est ainsi que désormais, depuis 2011, c'est bien sous l'exigence d'une motivation que le jury doit rendre son verdict en matière criminelle.
Merci à tous les 3 de cette discussion, de ce débat passionnant. C'est toujours passionnant d'en apprendre sur la façon dont les praticiens du droit travaillent, fonctionnent, et on essaie de tirer ce fil en question du soir. Donc merci à vous 3, Laure Hennick, Fanny Collin, Denis Salas. Merci à Juliette Moëlic et à Diane Devancey qui ont permis à ce plateau d'être ensemble, et à Candice Bergeron et Antoine Héral qui ont aussi travaillé sur cette émission. À suivre après le journal, Gaza, la guerre peut-elle reprendre ?